Livre premier, les origines. Chapitre premier, vie de Saint Maël. Maël, issu d'une famille royale de Cambry, fut envoyé dès sa 9e année dans l'abbaye d'Hiverne pour y étudier les lettres sacrées et profanes. À l'âge de 14 ans, il renonça à son héritage et fit vœu de servir le Seigneur. Il partageait ses heures, selon la règle, entre les chants des hymnes, l'étude de la grammaire et la méditation des vérités éternelles. Un parfum céleste trahit bientôt dans le cloître les vertus de ce religieux. Et lorsque le bienheureux Gall, abbé d'Hiverne, trépassa de ce monde en l'autre, le jeune Maël lui succéda dans le gouvernement du monastère. Il y établit une école, une infirmerie, une maison des hôtes, une forge, des ateliers de toutes sortes et des chantiers pour la construction des navires, et il obligea les religieux à défricher les terres alentour. Il cultivait de ses mains le jardin de l'abbaye, travaillait les métaux, instruisait les novices, et sa vie s'écoulait doucement, comme une rivière qui reflète le ciel et féconde les campagnes. Au tombé du jour, ce serviteur de Dieu avait coutume de s'asseoir sur la falaise, à l'endroit qu'on appelle encore aujourd'hui la chaise de Saint Maël. À ses pieds, les rochers, semblables à des dragons noirs, tout velus d'algues vertes et de goémons fauves, opposaient à l'écume des lames leur poitrail monstrueux. Il regardait le soleil descendre dans l'océan comme une rouge hostie qui, de son sang glorieux, empourprait les nuages du ciel et la cime des vagues. Et le saint homme y voyait l'image du mystère de la croix, par lequel le sang divin a revêtu la terre d'une pourpre royale. Au large, une ligne d'un bleu sombre marquait les rivages de l'île de Gade, où sainte Brigide, qui avait reçu le voile de Saint-Malo, gouvernait un monastère de femmes. Or Brigide, instruite des mérites du vénérable Maël, lui fit demander, comme un riche présent, quelque ouvrage de ses mains. Maël fondit pour elle une clochette d'airain, et quand elle fut achevée, il la bénit et la jeta dans la mer. Et la clochette alla sonnant vers le rivage de Gade, où sainte Brigide, avertie par le son de l'airain sur les flots, la recueillit pieusement, et, suivie de ses filles, la porta en procession solennelle au chant des psaumes dans la chapelle du Moutier. Ainsi le saint homme Maël marchait de vertus en vertus. Il avait déjà parcouru les deux tiers du chemin de sa vie, et il espérait atteindre doucement sa fin terrestre au milieu de ses frères spirituels, lorsqu'il connut à un signe certain que la sagesse divine en avait décidé autrement, et que le Seigneur l'appelait à des travaux moins paisibles, mais non moindres en mérite. Chapitre deuxième, vocation apostolique de Saint Maël. Un jour qu'il allait, méditant au fond d'une anse tranquille à laquelle des rochers allongés dans la mer faisaient une digue sauvage, il vit une auge de pierre qui nageait comme une barque sur les eaux. C'était dans une cuve semblable que Saint Guirec, le grand saint colomban, et tant de religieux d'Écosse et d'Irlande, étaient allés évangéliser l'Armorique. Naguère encore, sainte Avoie, venue d'Angleterre, remontait la rivière Dorée dans un mortier de granit rose, où l'on mettra plus tard les enfants pour les rendre forts. Saint Vouga passait d'Hibernie en Cornouailles sur un rocher dont les éclats, conservés à peine marque, guériront de la fièvre les pèlerins qui y poseront la tête. Saint Samson abordait la baie du Mont-Saint-Michel dans une cuve de granit qu'on appellera un jour l'écuelle de Saint Samson. C'est pourquoi, à la vue de cette auge de pierre, le saint homme Maël comprit que le Seigneur le destinait à l'apostolat des païens qui peuplaient encore le rivage et les îles des Bretons. Il remit son bâton de frère au saint homme Budoc, l'investissant ainsi du gouvernement de l'abbaye. Puis, muni d'un pain, d'un baril d'eau douce et du livre des saints évangiles, il entra dans l'auge de pierre, qui le porta doucement à l'île d'Eudic. Elle est perpétuellement battue de vent. Des hommes pauvres y pêchent le poisson entre les fentes des rochers et cultivent péniblement des légumes dans des jardins pleins de sable et de cailloux, abrités par des murs de pierres sèches et des haies de tamaris. Un beau figuier s'élevait dans un creux de l'île et poussait au loin ses branches. Les habitants de l'île l'adoraient. Et le saint homme Maël leur dit « Vous adorez cet arbre parce qu'il est beau, c'est donc que vous êtes sensibles à la beauté. Or je viens vous révéler la beauté cachée. » Et il leur enseigna l'Évangile, et après les avoir instruits, il les baptisa par le sel et par l'eau. Les îles du Morbihan étaient plus nombreuses en ce temps-là qu'aujourd'hui, car depuis lors beaucoup se sont abîmés dans la mer. Saint Maël en évangélisa 60. Puis, dans son auge de granit, il remonta la rivière Dorée, et après 3 heures de navigation, il mit pied à terre devant une maison romaine. Du toit s'élevait une fumée légère. Le saint homme franchit le seuil sur lequel une mosaïque représentait un chien, les jarrets tendus et les babines retroussées. Il fut accueilli par 2 vieux époux, Marcus Combabus et Valeria Moerens, qui vivaient là du produit de leurs terres. Autour de la cour intérieure régnait un portique dont les colonnes étaient peintes en rouge depuis la base jusqu'à mi-hauteur. Une fontaine de coquillages s'adossait au mur, et sous le portique s'élevait un autel avec une niche où le maître de cette maison avait déposé de petites idoles de terre cuite blanchies au lait de chaux. Les unes représentaient des enfants ailés, les autres Apollon ou Mercure, et plusieurs étaient en forme d'une femme nue qui se tordait les cheveux. Mais le saint homme Maël, observant ces figures, découvrit parmi elles l'image d'une jeune mère tenant un enfant sur ses genoux. Aussitôt il dit, montrant cette image, « Celle-ci est la Vierge, Mère de Dieu. » Le poète Virgile l'annonça en carme sibyllin avant qu'elle ne fût née, et d'une voix angélique, il chanta « Iam redit et virgo ». Et l'on vit d'elle, dans la gentilité, des figures prophétiques telles que celle-ci que tu as placée, ô Marcus, sur cet autel, et sans doute elle l'a protégée, telle l'art modique. C'est ainsi que ceux qui observent exactement la loi naturelle se préparent à la connaissance des vérités révélées. Marcus Combabus et Valeria Moerens, instruits par ce discours, se convertirent à la foi chrétienne. Ils reçurent le baptême avec leur jeune affranchi, Caelia Avitella, qui leur était plus chère que la lumière de leurs yeux. Tous leurs colons renoncèrent au paganisme et furent baptisés le même jour. Marcus Combabus, Valeria Moerens et Caelia Avitella menèrent depuis lors une vie pleine de mérite. Ils trépassèrent dans le Seigneur et furent admis au canon des saints. Durant 37 années encore, le bienheureux Maël évangélisa les païens de l'intérieur des terres. Il éleva 218 chapelles et 74 abbayes. Or, un certain jour, en la cité de Vannes, où il annonçait l'Évangile, il apprit que les moines d'Hiverne s'étaient relâchés en son absence de la règle de Saint-Gall. Aussitôt, avec le zèle de la poule qui rassemble ses poussins, il se rendit auprès de ses enfants égarés. Il accomplissait alors sa 97e année. Sa taille s'était courbée, mais ses bras restaient encore robustes, et sa parole se répandait abondamment comme la neige en hiver au fond des vallées. L'abbé Mudoc remit à saint Maël le bâton de frêne et l'instruisit de l'état malheureux où se trouvait l'abbaye. Les religieux s'étaient querellés sur la date à laquelle il convenait de célébrer la fête de Pâques. Les uns tenaient pour le calendrier romain, les autres pour le calendrier grec, et les horreurs d'un schisme chronologique déchiraient le monastère. Il régnait encore une autre cause de désordre. Les religieuses de l'île de Gat, tristement tombées de leur vertu première, venaient à tout moment en barque sur la côte d'Hiverne. Les religieux les recevaient dans le bâtiment des hôtes, et il en résultait des scandales qui remplissaient de désolation les âmes pieuses. Ayant terminé ce fidèle rapport, l'abbé Budoc conclut en ces termes « Depuis la venue de ces nonnes, c'en est fait de l'innocence et du repos de nos moines. » « Je le crois volontiers, répondit le bienheureux Maël, car la femme est un piège adroitement construit. On y est pris dès qu'on l'a flairé. Hélas, l'attrait délicieux de ces créatures s'exerce de loin plus puissamment encore que de près. Elles inspirent d'autant plus le désir qu'elles le contentent moins. de là à ce vers d'un poète à l'une d'elles, présente je vous fuis, absente je vous trouve. Aussi voyons-nous, mon fils, que les blandisses de l'amour charnel sont plus puissantes sur les solitaires et les religieux que sur les hommes qui vivent dans le siècle. Le démon de la luxure m'a tenté toute ma vie de diverses manières, et les plus rudes tentations ne me vinrent pas de la rencontre d'une femme, même belle et parfumée, elles me vinrent de l'image d'une femme absente. Maintenant encore, plein de jours et touchant à ma 98e année, je suis souvent induit par l'ennemi à pécher contre la chasteté, du moins en pensée. La nuit, quand j'ai froid dans mon lit et que se choquent avec un bruit sourd mes vieux os glacés, j'entends des voix qui récitent le deuxième verset du troisième livre des rois, Dixerunt ergo ei servi sui, queramus domino nostri regi, adolescentulam virginem, et stet coram regei et fevateum, dormiatque in sinu suo, et califaciat dominum nostrum regem. Et le diable me montre une enfant dans sa première fleur qui me dit « Je suis ton abyssac, je suis ta tsunamite, ô mon Seigneur, fais-moi une place dans ta couche. » « Croyez-moi, ajouta le vieillard, ce n'est pas sans un secours particulier du ciel qu'un religieux peut garder sa chasteté de fait et d'intention. » S'appliquant aussitôt à rétablir l'innocence et la paix dans le monastère, il corrigea le calendrier d'après les calculs de la chronologie et de l'astronomie et le fit accepter par tous les religieux. Il renvoya les filles déchues de sainte Brigide dans leur monastère, mais loin de les chasser brutalement, il les fit conduire à leur navire avec des chants de psaumes et de litanies. « Respectons en elles, disait-il, les filles de Brigide et les fiancées du Seigneur. Gardons-nous d'imiter les pharisiens qui affectent de mépriser les pécheresses. Il faut humilier ces femmes dans leurs péchés et non dans leurs personnes, et leur faire honte de ce qu'elles ont fait et non de ce qu'elles sont, car elles sont les créatures de Dieu. » Et le saint homme exhorta ses religieux à fidèlement observer la règle de leur ordre. « Quand il n'obéit pas au gouvernail, leur dit-il, le navire obéit à l'écueil. » Chapitre 3e. La tentation de saint Maël. Le bienheureux Maël avait à peine rétabli l'ordre dans l'abbaye d'Hiverne quand il apprit que les habitants de l'île d'Édicque, ses premiers catéchumènes, et de tous les plus chers à son cœur, étaient retournés au paganisme et qu'ils suspendaient des couronnes de fleurs et des bandelettes de laine aux branches du figuier sacré. Le batelier qui portait ces douloureuses nouvelles exprima la crainte que bientôt ces hommes égarés ne détruisissent par le fer et par le feu la chapelle élevée sur le rivage de leur île. Le saint homme résolut de visiter sans retard ces enfants infidèles afin de les ramener à la foi et d'empêcher qu'ils ne se livrassent à des violences sacrilèges. Comme il se rendait à la baie sauvage où son auge de pierre était mouillée, il tourna ses regards sur les chantiers qu'il avait établis 30 ans auparavant au fond de cette baie pour la construction des navires et qui retentissaient à cette heure du bruit des scies et des marteaux. À ce moment, le diable, qui ne se lasse jamais, sortit des chantiers, s'approcha du saint homme sous la figure d'un religieux nommé Samson et le tenta en ces termes. « Mon père, les habitants de l'île d'Édicque commettent incessamment des péchés. Chaque instant qui s'écoule les éloigne de Dieu. Ils vont bientôt porter le fer et le feu dans la chapelle que vous avez élevée de vos mains vénérables sur le rivage de l'île. Le temps presse. Ne pensez-vous point que votre auge de pierre vous conduirait plus vite vers eux si elle était grillée comme une barque et munie d'un gouvernail, d'un mât et d'une voile, car alors vous seriez poussé par le vent. Vos bras sont robustes encore et propres à gouverner une embarcation. On ferait bien aussi de mettre une étrave tranchante à l'avant de votre auge apostolique. Vous êtes trop sage pour n'en avoir pas eu l'idée. » Certes, le temps presse, répondit le saint homme, mais agir comme vous dites, mon fils Samson, ne serait-ce pas me rendre semblable à ces hommes de peu de foi qui ne se fient point au Seigneur? Ne serait-ce point mépriser les dons de celui qui m'a envoyé la cuve de pierre sans agrès ni voilure ? À cette question, le diable, qui est un grand théologien, répondit par cette autre question. « Mon père, est-il louable d'attendre des bras croisés que vienne le secours d'en haut et de tout demander à celui qui peut tout, au lieu d'agir par prudence humaine et de céder soi-même » « Non, certes, répondit le saint vieillard Maël, et c'est tenter Dieu que de négliger d'agir par prudence humaine. » Or, poussa le diable, la prudence n'est-elle point en ce cas de griller la cuve? Ce serait prudence, si l'on ne pouvait d'autre manière arriver à point. Eh eh, votre cuve est-elle donc bien rapide? Elle l'est autant qu'il plaît à Dieu. Qu'en savez-vous? Elle va comme la mule de l'abbé Budoc, c'est un vrai sabot. Vous est-il défendu de la rendre plus vite? « Mon fils, la clarté orne vos discours, mais ils sont tranchants à l'excès. Considérez que cette cuve est miraculeuse. Elle l'est, mon père. Une auge de granit qui flotte sur l'eau comme un bouchon de liège est une auge miraculeuse, il n'y a point de doute. Qu'en concluez-vous ? Mon embarras est grand. Convient-il de perfectionner par des moyens humains et naturels une si miraculeuse machine ? « Mon père, si vous perdiez le pied droit et que Dieu vous le rendît, ce pied serait-il miraculeux ? Sans doute, mon fils. Le chausseriez-vous ? Assurément. Eh bien, si vous croyez qu'on peut chausser d'un soulier naturel un pied miraculeux, vous devez croire aussi qu'on peut mettre des agrès naturels à une embarcation miraculeuse. Cela est limpide. Hélas, pourquoi faut-il que les plus saints personnages aient leurs heures de langueur et de ténèbres ? On est le plus illustre des apôtres de Bretagne, on pourrait accomplir des œuvres dignes d'une louange éternelle, mais l'esprit est lent et la main paresseuse. Adieu donc, mon père, voyagez à petite journée, et quand enfin vous approcherez des côtes d'Édicte, vous regarderez fumer les ruines de la chapelle élevée et consacrée par vos mains. Les païens l'auront brûlée avec le petit diacre que vous y avez mis et qui sera grillé comme un boudin. « Mon trouble est extrême, dit le serviteur de Dieu, en essuyant de sa manche son front mouillé de sueur. Mais dites-moi, mon fils Samson, ce n'est point une petite tâche que de griller cette auge de pierre. Et ne nous arrivera-t-il pas, si nous entreprenons une telle œuvre, de perdre du temps loin d'en gagner ?»« Ah, mon père, s'écria le diable, en un tour de sablier, la chose sera faite. Nous trouverons les agrès nécessaires dans ce chantier que vous avez jadis établi sur cette côte et dans ces magasins abondamment garnis par vos soins. J'ajusterai moi-même toutes les pièces navales. Avant d'être moine, j'ai été matelot et charpentier et j'ai fait bien d'autres métiers encore. À l'ouvrage !» Aussitôt, il entraîne le saint homme dans un hangar tout rempli des choses nécessaires à la navigation. « À vous cela, mon père !» Et il lui jette sur les épaules la toile, le mât, la corne et le gui. Et puis, se chargeant lui-même d'une étrave et d'un gouvernail, avec la mèche et la barre, et saisissant un sac de charpentier plein d'outils, il court au rivage, tirant après lui sa robe de saint homme pliée, suant et soufflant sous le faix de la toile et des bois. Chapitre 4e. Navigation de Saint-Maël sur l'océan de glace. Le diable, s'étant troussé jusqu'aux aisselles, traîna l'auge sur le sable et l'agréa en moins d'une heure. Dès que le saint homme Maël se fut embarqué, cette cuve, toute voile déployée, fendit les eaux avec une telle vitesse que la côte fut aussitôt hors de vue. Le vieillard gouvernait au sud pour doubler le cap Lanshent, mais un courant irrésistible le portait au sud-ouest. Il longea la côte méridionale de l'Irlande et tourna brusquement vers le septentrion. Le soir, le vent fraîchit. En vain, Maël essaya de replier la toile. La cuve fuyait éperdument vers les mers fabuleuses. À la clarté de la lune, les sirènes grasses du nord, aux cheveux de chanvre, vinrent soulever autour de lui leurs gorges blanches et leurs croupes roses. et battant de leur queue d'émeraude la vague écumeuse, elles chantaient en cadence. Où cours-tu, doux Maël, dans ton eau j'ai perdu, ta voile est gonflée comme le sein de Junon quand il en jaillit la voie lactée. Un moment, elles le poursuivirent sous les étoiles de leurs rires harmonieux, mais la cuve fuyait plus rapide 100 fois que le navire rouge d'un viking, et les pétrels, surpris dans leur vol, se prenaient les pattes aux cheveux du saint homme. Bientôt une tempête s'éleva, pleine d'ombre et de gémissements, et l'auge, poussée par un vent furieux, vola comme une mouette dans la brume et la houle. Après une nuit de 3 fois 24 heures, les ténèbres se déchirèrent soudain, et le saint homme découvrit à l'horizon un rivage plus étincelant que le diamant. Ce rivage grandit rapidement, et bientôt, à la clarté glaciale d'un soleil inerté bas, Maël vit monter au-dessus des flots une ville blanche, aux rues muettes, qui, plus vaste que Thèbes aux 100 portes, étendait à perte de vue les ruines de son forum de neige, de ses palais de givre, de ses arcs de cristal et de ses obélisques irisés. L'océan était couvert de glaces flottantes autour desquelles nageaient des hommes marins au regard sauvage et doux, et Léviathan passa, lançant une colonne d'eau jusqu'aux nuées. Cependant, sur un bloc de glace qui nageait de conserve avec l'auge de pierre, une ourse blanche était assise, tenant son petit entre ses bras. Et Maël l'entendit qui murmurait doucement ce vers de Virgile, incipé par ve puer. Et le vieillard, plein de tristesse et de trouble, pleura. L'eau douce avait, en se gelant, fait éclater le baril qui la contenait, et pour étancher sa soif, Maël suçait des glaçons, et il mangeait son pain trempé d'eau salée. Sa barbe et ses cheveux se brisaient comme du verre. Sa robe, recouverte d'une couche de glace, lui coupait à chaque mouvement les articulations des membres. Les vagues monstrueuses se soulevaient, et leurs mâchoires écumantes s'ouvraient toutes grandes sur le vieillard. 20 fois, des paquets de mer emplirent l'embarcation, et le livre des saints évangiles, que l'apôtre gardait précieusement sous une couverture de pourpre marquée d'une croix d'or, l'océan l'engloutit. Or, le 30e jour, la mer se calma, et voici qu'avec une effroyable clameur du ciel et des eaux, une montagne d'une blancheur éblouissante, haute de 300 pieds, s'avance vers la cuve de pierre. Maël gouverne pour l'éviter, la barre se brise dans ses mains. Pour ralentir sa marche à l'écueil, il essaye encore de prendre des ris, mais quand il veut nouer les garcettes, le vent les lui arrache, et le filin, en s'échappant, lui brûle les mains. Et il voit 3 démons aux ailes de peau noire garnies de crochets qui, pendus aux agrès, soufflent dans la toile. Comprenant à cette vue que l'ennemi l'a gouverné en toutes ces choses, il s'arme du signe de la croix. Aussitôt, un coup de vent furieux, plein de sanglots et de hurlements, soulève l'auge de pierre, emporte la mâture avec toute la toile, arrache le gouvernail et l'étrave. Et l'auge s'en fut à la dérive sur la mer apaisée. Le saint homme, s'agenouillant, rendit grâces au Seigneur qu'il avait délivré des pièges du démon. Alors il reconnut, assise sur un bloc de glace, l'ours-mère qui avait parlé dans la tempête. Elle pressait sur son sein son enfant bien-aimé et tenait à la main un livre de pourpre marqué d'une croix d'or. Ayant accosté l'auge de granit, elle salua le saint homme par ces mots « Pax tibi, Maël !» et elle lui tendit le livre. Le saint homme reconnut son évangéliaire et, plein d'étonnement, il chanta dans l'air tiédi une hymne au Créateur et à la création. Chapitre 5e. Baptême des pingouins. Après être allé 1 heure à la dérive, le saint homme aborda une plage étroite, fermée par des montagnes à pic. Il marcha le long du rivage tout un jour et une nuit, contournant les rochers qui formaient une muraille infranchissable. Et il s'assura que c'était une île ronde, au milieu de laquelle s'élevait une montagne couronnée de nuages. Il respirait avec joie la fraîche haleine de l'air humide. La pluie tombait, et cette pluie était si douce que le saint homme dit au Seigneur « Seigneur, voici l'île des larmes, l'île de la contrition. » La plage était déserte. Exténué de fatigue et de faim, il s'assit sur une pierre, dans le creux de laquelle reposaient des œufs jaunes, marqués de taches noires et gros comme des œufs de cygne. Mais il n'y toucha point, disant « Les oiseaux sont les louanges vivantes de Dieu, je ne veux pas que par moi manque une seule de ces louanges. » Et il mâcha des lichens arrachés au creux des pierres. Le saint homme avait accompli presque entièrement le tour de l'île, sans rencontrer d'habitants, quand il parvint à un vaste cirque formé par des rochers fauves et rouges, plein de cascades sonores et dont les pointes bleuissaient dans les nuées. La réverbération des glaces polaires avait brûlé les yeux du vieillard, et pourtant une faible lumière se glissait encore entre ses paupières gonflées. Il distingua des formes animées qui se pressaient en étages sur ces rochers, comme une foule d'hommes sur les gradins d'un amphithéâtre. Et en même temps, ses oreilles, assourdies par les longs bruits de la mer, entendirent faiblement des voix. Pensant que c'étaient là des hommes vivants selon la loi naturelle, et que le Seigneur l'avait envoyé à eux pour leur enseigner la loi divine, il les évangélisa. Monté sur une haute pierre au milieu du cirque sauvage, « Habitants de cette île, leur dit-il, quoique vous soyez de petite taille, vous semblez moins une troupe de pêcheurs et de mariniers que le sénat d'une sage république. Par votre gravité, votre silence, votre tranquille maintien, vous composez sur ce rocher sauvage une assemblée comparable aux pères conscrits de Rome, délibérant dans le temple de la victoire, ou plutôt aux philosophes d'Athènes disputant sur les bancs de l'aréopage. Sans doute vous ne possédez ni leur science ni leur génie, mais peut-être, au regard de Dieu, l'emportez-vous sur eux. Je devine que vous êtes simple et bon. En parcourant les bords de votre île, je n'y ai découvert aucune image de meurtre, aucun signe de carnage, ni tête ni chevelure d'ennemis suspendus à une haute perche ou cloués aux portes des villages. Il me semble que vous n'avez point d'art et que vous ne travaillez point les métaux. Mais vos cœurs sont purs et vos mains innocentes, et la vérité entrera facilement dans vos âmes. » Or, ce qu'il avait pris pour des hommes de petite taille, mais d'allure grave, c'étaient des pingouins que réunissait le printemps et qui se tenaient rangés par couples sur les degrés naturels de la roche, debout dans la majesté de leur gros ventre blanc. Par moments, ils agitaient comme des bras leurs ailerons et poussaient des cris pacifiques. Ils ne craignaient point les hommes, parce qu'ils ne les connaissaient pas et n'en avaient jamais reçu d'offense. Et il y avait en ce religieux une douceur qui rassurait les animaux les plus craintifs et qui plaisait extrêmement à ces pingouins. Ils tournaient vers lui, avec une curiosité amie, leur petit œil rond prolongé en avant par une tache blanche ovale, qui donnait à leur regard quelque chose de bizarre et d'humain. Touché de leur recueillement, le saint homme leur enseignait l'évangile. « Habitants de cette île, le jour terrestre qui vient de se lever sur vos rochers est l'image du jour spirituel qui se lève dans vos âmes, car je vous apporte la lumière intérieure, je vous apporte la lumière et la chaleur de l'âme. De même que le soleil fait fondre les glaces de vos montagnes, Jésus-Christ fera fondre les glaces de vos cœurs. » Ainsi parla le vieillard. Comme partout dans la nature la voix appelle la voix, comme tout ce qui respire à la lumière du jour aime les chants alternés, les pingouins répondirent au vieillard par les sons de leur gosier, et leur voix se faisait douce, car ils étaient dans la saison de l'amour. Et le saint homme, persuadé qu'ils appartenaient à quelque peuple idolâtre et faisaient en leur langage adhésion à la foi chrétienne, les invita à recevoir le baptême. « Je pense, leur dit-il, que vous vous baignez souvent, car tous les creux de ces roches sont pleins d'une eau pure, et j'ai vu tantôt, en me rendant à votre assemblée, plusieurs d'entre vous plonger dans ces baignoires naturelles. Or, la pureté du corps est l'image de la pureté spirituelle. » Et il leur enseigna l'origine, la nature et les effets du baptême. « Le baptême, leur dit-il, est adoption, renaissance, régénération, illumination. » Et il leur expliqua successivement chacun de ces points. Puis, ayant béni préalablement l'eau qui tombait des cascades et récité les exorcismes, il baptisa ceux qu'il venait d'enseigner, en versant sur la tête de chacun d'eux une goutte d'eau pure et en prononçant les paroles consacrées. Et il baptisa ainsi les oiseaux pendant 3 jours et 3 nuits. Chapitre 6e. Une assemblée au paradis. Quand le baptême des pingouins fut connu dans le paradis, il n'y causa ni joie ni tristesse, mais une extrême surprise. Le Seigneur lui-même était embarrassé. Il réunit une assemblée de clercs et de docteurs et leur demanda s'ils estimaient que ce baptême fût valable. « Il est nul, » dit saint Patrick. « Pourquoi est-il nul ?» demanda saint Gall, qui avait évangélisé les Cornouailles et formé le saint homme Maël aux travaux apostoliques. « Le sacrement du baptême, » répondit saint Patrick, « est nul quand il est donné à des oiseaux, comme le sacrement du mariage est nul quand il est donné à un eunuque. » « Mais, saint Gall, quel rapport prétendez-vous établir entre le baptême d'un oiseau et le mariage d'un eunuque ? Il n'y en a point. » Le mariage est, si j'ose dire, un sacrement conditionnel, éventuel. Le prêtre bénit par avance un acte. Il est évident que si l'acte n'est pas consommé, la bénédiction demeure sans effet. Cela saute aux yeux. J'ai connu sur la terre, dans la ville d'Antrim, un homme riche nommé Sadoc, qui, vivant en concubinage avec une femme, la rendit mère de 9 enfants. Sur ses vieux jours, cédant à mes objurgations, il consentit à l'épouser et je bénis leur union. Malheureusement, le grand âge de Sadoc l'empêcha de consommer le mariage. Peu de temps après, il perdit tous ses biens et Germaine, tel était le nom de cette femme, ne se sentant point en état de supporter l'indigence, demanda l'annulation d'un mariage qui n'avait point de réalité. Le pape accueillit sa demande, car elle était juste. Voilà pour le mariage. Mais le baptême est conféré sans restriction ni réserve d'aucune sorte. Il n'y a point de doute, c'est un sacrement que les pingouins ont reçu. Appelé à donner son avis, le pape saint Damase s'exprima en ces termes. Pour savoir si un baptême est valable et produira ses conséquences, c'est-à-dire la sanctification, il faut considérer qui le donne et non qui le reçoit. En effet, la vertu sanctifiante de ce sacrement résulte de l'acte extérieur par lequel il est conféré, sans que le baptisé coopère à sa propre sanctification par aucun acte personnel. S'il en était autrement, on ne l'administrerait point au nouveau-né. Et il n'est besoin, pour baptiser, de remplir aucune condition particulière. Il n'est pas nécessaire d'être en état de grâce. Il suffit d'avoir l'intention de faire ce que fait l'Église, de prononcer les paroles consacrées et d'observer les formes prescrites. Or, nous ne pouvons douter que le vénérable Maël n'ait opéré dans ces conditions. Donc, les pingouins sont baptisés. « Qu'y pensez-vous ? » demanda saint Guénolé. « Et que croyez-vous donc que soit le baptême ? » Le baptême est le procédé de la régénération par lequel l'homme naît d'eau et d'esprit, car entré dans l'eau couvert de crimes, il en sort néophyte, créature nouvelle, abondante en fruits de justice. Le baptême est le germe de l'immortalité. Le baptême est le gage de la résurrection. Le baptême est l'ensevelissement avec le Christ en sa mort et la communion à la sortie du sépulcre. Ce n'est pas un don à faire à des oiseaux. Raisonnons, mes pères. Le baptême efface le péché originel. Or, les pingouins n'ont pas été conçus dans le péché. Il remet toutes les peines du péché. Or, les pingouins n'ont pas péché. Il produit la grâce et le don des vertus, unissant les chrétiens à Jésus-Christ, comme les membres au chef, et il tombe sous le sens que les pingouins ne sauraient acquérir les vertus des confesseurs, des vierges et des veuves, recevoir des grâces et s'unir à... Saint Damas ne le laissa point achever. « Cela prouve, dit-il vivement, que le baptême était inutile. Cela ne prouve pas qu'il ne soit pas effectif. » « Mais à ce compte, répliqua saint Guénolé, on baptiserait au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, par aspersion ou immersion, non seulement un oiseau ou un quadrupède, mais aussi un objet inanimé, une statue, une table, une chaise, etc. Cet animal serait chrétien, cette idole, cette table serait chrétienne. C'est absurde !» Saint Augustin prit la parole. Il se fit un grand silence. « Je vais, dit l'ardent évêque d'Hippone, vous montrer par un exemple la puissance des formules. Il s'agit, il est vrai, d'une opération diabolique. Mais s'il est établi que des formules enseignées par le diable ont de l'effet sur des animaux privés d'intelligence ou même sur des objets inanimés, Comment douter encore que l'effet des formules sacramentelles ne s'étende sur l'esprit des brutes et sur la matière inerte? Voici cet exemple. Il y avait de mon vivant, dans la ville de Madaura, patrie du philosophe Apulée, une magicienne à qui il suffisait de brûler sur un trépied avec certaines herbes et en prononçant certaines paroles quelques cheveux coupés sur la tête d'un homme pour attirer aussitôt cet homme dans son lit. Or, un jour qu'elle voulait obtenir de cette manière l'amour d'un jeune garçon, elle brûla, trompée par sa servante, au lieu des cheveux de cet adolescent, des poils arrachés à une outre de peau de bouc qui pendait à la boutique d'un cabaretier. Et la nuit, l'outre pleine de vin bondit à travers la ville jusqu'au seuil de la magicienne. Le fait est véritable. Dans les sacrements, comme dans les enchantements, c'est la forme qui opère. L'effet d'une formule divine ne saurait être moindre en force et en étendue que l'effet d'une formule infernale. Ayant parlé de la sorte, le grand Augustin s'assit au milieu des applaudissements. Un bienheureux, d'un âge avancé et d'aspect mélancolique, demanda la parole. Personne ne le connaissait. Il se nommait Probus et n'était point inscrit dans le canon des saints. « Que la compagnie veuille m'excuser, dit-il, je n'ai point d'auréole, et c'est sans éclat que j'ai gagné la béatitude éternelle. Mais après ce que vient de vous dire le grand saint Augustin, je crois à propos de vous faire part d'une cruelle expérience que j'ai faite sur les conditions nécessaires à la validité d'un sacrement. » L'évêque d'Hippone a bien raison de le dire. Un sacrement dépend de la forme. Sa vertu est dans la forme, son vice est dans la forme. Écoutez, confesseurs et pontifes, ma lamentable histoire. J'étais prêtre à Rome sous le principat de l'empereur Gordien. Sans me recommander, comme vous, par des mérites singuliers, j'exerçais le sacerdoce avec piété. J'ai desservi pendant 40 ans l'église de Saint-Modeste hors des murs. Mes habitudes étaient régulières. Je me rendais chaque samedi auprès d'un cabaretier nommé Barjas, qui logeait avec ses amphores sous la porte Capenne, et je lui achetais le vin que je consacrais chaque jour de la semaine. Je n'ai point, dans ce long espace de temps, manqué un seul matin de célébrer le très saint sacrifice de la messe. Pourtant, j'étais dans la joie, et c'est le cœur serré d'angoisse que je demandais sur les degrés de l'autel. « Pourquoi es-tu triste, mon âme, et pourquoi me troubles-tu ? » Les fidèles que je conviais à la sainte table me donnaient des sujets d'affliction, car, ayant encore, pour ainsi dire, sur la langue, l'hostie administrée par mes mains, ils retombaient dans le péché, comme si le sacrement eût été sur eux sans force et sans efficacité. J'atteignis enfin le terme de mes épreuves terrestres, et m'étant endormi dans le Seigneur, je me réveillai au séjour des élus. J'appris alors de la bouche de l'ange qui m'avait transporté que le cabaretier Barjas de la porte Capenne vendait pour du vin une décoction de racines et d'écorces dans laquelle n'entrait point une seule goutte du jus de la vigne, et que je n'avais pu transmuer ce vil breuvage en sang puisque ce n'était pas du vin, et que le vin seul se change au sang de Jésus-Christ, que, par conséquent, toutes mes consécrations étaient nulles, et que, à notre insu, nous étions, mes fidèles et moi, depuis 40 ans privés du sacrement de l'Eucharistie et excommuniés de fait. À cette révélation, je fus saisi d'une stupeur qui m'accable encore aujourd'hui dans ce séjour de béatitude. Je le parcours incessamment sur toute son étendue, sans rencontrer un seul des chrétiens que j'admise autrefois à la sainte table dans la basilique de la bienheureuse Modeste. Privés du pain des anges, ils s'abandonnèrent sans force aux vices les plus abominables, et ils sont tous allés en enfer. Je me plais à penser que le cabaretier Barjas est damné. Il y a dans ces choses une logique digne de l'auteur de toute logique. Néanmoins, mon malheureux exemple prouve qu'il est parfois fâcheux que, dans les sacrements, la forme l'emporte sur le fond. Je le demande humblement, la sagesse éternelle n'y pourrait-elle remédier ? Non, répondit le Seigneur, le remède serait pire que le mal. Si, dans les règles du salut, le fond l'emportait sur la forme, ce serait la ruine du sacerdoce.
Hélas, mon Dieu, soupira l'humble Probus, croyez-en ma triste expérience. Tant que vous réduirez vos sacrements à des formules, votre justice rencontrera de terribles obstacles.
Je le sais mieux que vous, répliqua le Seigneur. Je vois d'un même regard les problèmes actuels qui sont difficiles et les problèmes futurs qui ne seront pas moins. Ainsi, je puis vous annoncer qu'après que le soleil aura tourné encore 240 fois autour de la terre,
un sublime langage, s'écrièrent les anges.
Et digne créateur du monde, répondirent les pontifes.
C'est, reprit le Seigneur, une façon de dire en rapport avec ma vieille cosmogonie, et dont je ne me déferai pas sans qu'il en coûte à mon immutabilité. Après donc que le soleil aura tourné encore 240 fois autour de la terre, il ne se trouvera plus à Rome un seul clerc sachant le latin. Et, chantant les litanies dans les églises, on invoquera les saints Orichel, Roguel et Totichel, qui sont, comme vous le savez, des diables et non des anges. Beaucoup de voleurs, ayant dessein de communier, mais craignant d'être obligés, pour obtenir leur pardon, d'abandonner à l'église les objets dérobés, se confesseront à des prêtres errants qui, n'entendant ni l'italien ni le latin, et parlant seulement le patois de leur village, iront par les cités et les bourgs, vendre à vil prix, souvent pour une bouteille de vin, la rémission des péchés. Vraisemblablement, nous n'aurons point à nous soucier de ces absolutions auxquelles manquera la contrition pour être valable, mais il pourra bien arriver que les baptêmes nous causent encore de l'embarras. Les prêtres deviendront à ce point ignares qu'ils baptiseront les enfants in nomine patria et filia et spirita sancta, comme Louis de Potter se fera un plaisir de le relater au tome 3 de son Histoire philosophique, politique et critique du christianisme. Ce sera une question ardue que de décider sur la validité de tel baptême. Car enfin, si je m'accommode pour mes textes sacrés d'un grec moins élégant que celui de Platon, et d'un latin qui ne cicéronise guère, je ne saurais admettre comme formule liturgique un pur charabia. Et l'on frémit quand on songe qu'il sera procédé avec cette inexactitude sur des millions de nouveau-nés. Mais revenons à nos pingouins.
Vos divines paroles, Seigneur, nous y ont déjà ramenés, dit Saint-Gall. Dans les signes de la religion et les règles du salut, la forme l'emporte nécessairement sur le fond, et la validité d'un sacrement dépend uniquement de sa forme. Toute la question est de savoir si oui ou non les pingouins ont été baptisés dans les formes. Or, la réponse n'est pas douteuse. Les pères et les docteurs en tombèrent d'accord, et leur perplexité n'en devint que plus cruelle.
L'état de chrétien, dit saint Corneille, ne va pas sans de graves inconvénients pour un pingouin. Voilà des oiseaux dont l'obligation de faire leur salut. Comment y pourront-ils réussir? Les mœurs des oiseaux sont en bien des points contraires aux commandements de l'Église, et les pingouins n'ont pas de raison pour en changer. Je veux dire qu'ils ne sont pas assez raisonnables pour en prendre de meilleurs.
Ils ne le peuvent pas, dit le Seigneur, mais décret les en empêche.
Toutefois, reprit saint Corneille, par la vertu du baptême, leurs actions cessent de demeurer indifférentes. Désormais, elles seront bonnes ou mauvaises, susceptibles de mérite ou de démérite.
C'est bien ainsi que la question se pose, dit le Seigneur.
Je n'y vois qu'une solution, dit saint Augustin, les pingouins iront en enfer.
Mais ils n'ont point d'âme, fit observer saint Irénée.
C'est fâcheux, soupira Tertullien.
Sans doute, reprit saint Gallet, je reconnais que le saint homme Maël, mon disciple, a, dans son zèle aveugle, créé au Saint-Esprit de grandes difficultés théologiques et porté le désordre dans l'économie des mystères.
C'est un vieil étourdi, s'écria, en haussant les épaules, saint Adjutor d'Alsace.
Mais le Seigneur, tournant sur Adjutor un regard de reproche,
permettez, dit-il, le saint homme Maël n'a pas comme vous, mon bienheureux, la science infuse. Il ne me voit pas. C'est un vieillard accablé d'infirmité. Il est à moitié sourd et aux trois quarts aveugle.
Vous êtes trop sévère pour lui. Cependant, je reconnais que la situation est embarrassante.
Ce n'est heureusement qu'un désordre passager, dit saint Irénée. Les pingouins sont baptisés, leurs œufs ne le seront pas, et le mal s'arrêtera à la génération actuelle.
Ne parlez pas ainsi, mon fils Irénée, dit le Seigneur.
Les règles que les physiciens établissent sur la Terre souffrent des exceptions parce qu'elles sont imparfaites et ne s'appliquent pas exactement à la nature, mais les règles que j'établis sont parfaites et ne souffrent aucune exception. Il faut décider du sort des pingouins baptisés sans enfreindre aucune loi divine et conformément au décalogue ainsi qu'au commandement de mon Église. « Seigneur, dit saint Grégoire de Nazianze, donnez-leur une âme immortelle. » « Hélas, Seigneur, qu'en ferait-il ? » soupira Lactance. « Ils n'ont pas une voix harmonieuse pour chanter vos louanges. Ils ne sauraient célébrer vos mystères. »« Sans doute, dit saint Augustin, ils n'observeront pas la loi divine. » « Ils ne le pourront pas, dit le Seigneur. »« Ils ne le pourront pas, poursuivit saint Augustin. Et si, dans votre sagesse, Seigneur, vous leur infusez une âme immortelle, ils brûleront éternellement en enfer, en vertu de vos décrets adorables. Ainsi sera rétabli l'ordre auguste, troublé par ce vieux Cambrien. » Vous me proposez, fils de Monique, une solution correcte, dit le Seigneur, et qui s'accorde avec ma sagesse. Mais elle ne contente point ma clémence, et bien qu'immuable par essence, à mesure que je dure, j'incline davantage à la douceur. Ce changement de caractère est sensible à qui lit mes deux testaments. Comme la discussion se prolongeait sans apporter beaucoup de lumière, et que les bienheureux montraient de la propension à répéter toujours la même chose, on décida de consulter sainte Catherine d'Alexandrie. C'est ce qu'on faisait ordinairement dans les cas difficiles. Sainte Catherine avait, sur la terre, confondu 50 docteurs très savants. Elle connaissait la philosophie de Platon aussi bien que l'Écriture sainte et possédait la rhétorique. Chapitre 7e, une assemblée au paradis, suite et fin. Sainte Catherine se rendit dans l'assemblée, la tête sainte d'une couronne d'émeraudes, de saphirs et de perles, et vêtue d'une robe de drap d'or. Elle portait au côté une roue flamboyante, image de celle dont les éclats avaient frappé ses persécuteurs. Le Seigneur, l'ayant invitée à parler, elle s'exprima en ces termes. « Seigneur, pour résoudre le problème que vous daignez me soumettre, je n'étudierai pas les mœurs des animaux en général, ni celles des oiseaux en particulier. Je ferai seulement remarquer aux docteurs, confesseurs et pontifes réunis dans cette assemblée, que la séparation entre l'homme et l'animal n'est pas complète, puisqu'il se trouve des monstres qui procèdent à la fois de l'un et de l'autre. Tels sont les chimères, moitié nymphes et moitié serpents, les trois gorgones, les capripèdes, tels sont les cils et les sirènes qui chantent dans la mer, elles ont un buste de femme et une queue de poisson. Tels sont aussi les centaures, hommes jusqu'à la ceinture et chevaux pour le reste, une noble race de monstres. L'un d'eux, vous ne l'ignorez point, a su, guidé par les seules lumières de la raison, s'acheminer vers la béatitude éternelle, et vous voyez parfois, sur les nuées d'or, se cabrer sa poitrine héroïque. Le centaure Chiron mérita par ses travaux terrestres de partager le séjour des bienheureux. Il fit l'éducation d'Achille. Et ce jeune héros, au sortir des mains du centaure, vécut 2 ans, habillé à la manière d'une jeune vierge parmi les filles du roi Lycomède. Il partagea leurs jeux et leurs couches, sans leur laisser soupçonner un moment qu'il n'était point une jeune vierge comme elle. Chiron, qui l'avait nourri dans de si bonnes mœurs, est, avec l'empereur Trajan, le seul juste qui ait obtenu la gloire céleste en observant la loi naturelle. Et pourtant, ce n'était qu'un demi-homme. Je crois avoir prouvé par cet exemple qu'il suffit de posséder quelques parties de l'homme, à la condition toutefois qu'elle soit noble, pour parvenir à la béatitude éternelle. Et ce que le centaure Chiron a pu obtenir, sans être régénéré par le baptême, comment des pingouins ne le mériteraient-ils pas après avoir été baptisés s'ils devenaient demi-pingouins et demi-hommes? C'est pourquoi je vous supplie, Seigneur, de donner aux pingouins du vieillard Maël une tête et un buste humain, afin qu'ils puissent vous louer dignement et de leur accorder une âme immortelle, mais petite. Ainsi parla Catherine, et les pères, les docteurs, les confesseurs, les pontifes firent entendre un murmure d'approbation.
Mais saint Antoine, ermite, se leva, étendant vers le Très-Haut deux bras noueux et rouges. « N'en faites rien, Seigneur mon Dieu, s'écria-t-il, au nom de votre saint Paraclet, n'en faites rien !» Il parlait avec une telle véhémence que sa longue barbe blanche s'agitait à son menton comme une musette vide à la bouche d'un cheval affamé. « Seigneur, n'en faites rien, des oiseaux à tête humaine, cela existe déjà, sainte Catherine n'a rien imaginé de nouveau. » « L'imagination assemble et compare, elle ne crée jamais, répliqua sèchement sainte Catherine. « Cela existe déjà, poursuivit saint Antoine, qui ne voulait rien entendre. « Cela s'appelle les harpies, et ce sont les plus incongrus animaux de la création. « Un jour que, dans le désert, je reçus à souper saint Paul, l'abbé, « je mis la table au seuil de ma cabane, sous un vieux sycomore. « Les harpies vinrent s'asseoir dans les branches. « Elles nous assourdirent de leurs cris aigus et fientèrent sur tous les mets. L'importunité de ces monstres m'empêcha d'entendre les enseignements de saint Paul, l'abbé, et nous mangeâmes de la fiente d'oiseaux avec notre pain et nos laitues. Comment peut-on croire que les harpies vous loueront dignement, Seigneur ? Certes, dans mes tentations, j'ai vu beaucoup d'êtres hybrides, non seulement des femmes serpents et des femmes poissons, mais des êtres composés avec plus d'incohérence encore, comme des hommes dont le corps était fait d'une marmite, d'une cloche, d'une horloge, d'un buffet rempli de nourriture et de vaisselle, et même d'une maison avec des portes et des fenêtres par lesquelles on apercevait des personnes occupées à des travaux domestiques. L'éternité ne suffirait pas s'il me fallait décrire tous les monstres qui m'ont assailli dans ma solitude, depuis les baleines grillées comme des navires jusqu'à la pluie de bestioles rouges qui changeaient en sang l'eau de ma fontaine. Mais aucun n'était aussi dégoûtant que ces harpies qui brûlèrent de leurs excréments les feuilles de mon beau sycomore. « Les harpies, fit observer Lactance, ce sont des monstres femelles au corps d'oiseau. Elles ont d'une femme la tête et la poitrine. Leur indiscrétion, leur impudence et leur obscénité procèdent de leur nature féminine, ainsi que l'a démontré le poète Virgile en son Énéide. Elles participent à la malédiction d'Ève. » « Ne parlons plus de la malédiction d'Ève, dit le Seigneur. La seconde Ève a racheté la première. » Paul Rose, auteur d'une histoire universelle que Bossuet devait plus tard imiter, se leva et supplia le Seigneur. « Seigneur, entendez ma prière et celle d'Antoine. Ne fabriquez plus de monstres à la façon des centaures, des sirènes et des faunes, chers aux Grecs assembleurs de fables. Vous n'en aurez aucune satisfaction. Ces sortes de monstres ont des inclinations païennes et leur double nature ne le dispose pas à la pureté des mœurs. » Le suave Lactance répliqua en ces termes. « Celui qui vient de parler est assurément le meilleur historien qui soit dans le paradis, puisqu'Hérodote, Thucydide, Polybe, Tite-Live, Velleius Paterculus, Cornelius Nepos, Suétone, Manéthon, Diodore de Sicile, Dion Cassius, Lampride, sont privés de la vue de Dieu, et que Tacite souffre en enfer les tourments dus aux blasphémateurs. » Mais il s'en faut que Paul Rose connaisse aussi bien les cieux que la terre, car il ne songe point que les anges, qui procèdent de l'homme et de l'oiseau, sont la pureté même. « Nous nous égarons, dit l'Éternel. Que viennent faire ici ces centaures, ces harpies et ces anges? Il s'agit de pingouins. » « Vous l'avez dit, Seigneur, il s'agit de pingouins, déclara le doyen des 50 docteurs, confondus en leur vie mortelle par la Vierge d'Alexandrie. Et j'ose exprimer cet avis que, pour faire cesser le scandale dont les cieux s'émeuvent, il faut, comme le propose sainte Catherine qui nous a confondus, donner aux pingouins du vieillard Maël la moitié d'un corps humain avec une âme éternelle proportionnée à cette moitié. » Sur cette parole, il s'éleva dans l'assemblée un grand bruit de conversations particulières et de disputes doctorales. Les pères grecs contestaient avec les latins véhément sur la substance, la nature et les dimensions de l'âme qu'il convenait de donner aux pingouins. Confesseurs et pontifes, s'écria le Seigneur, n'imitez point les conclaves et les synodes de la terre, et ne portez point dans l'Église triomphante ces violences qui troublent l'Église militante. Car il n'est que trop vrai, dans tous les conciles tenus sous l'inspiration de mon esprit, en Europe, en Asie, en Afrique, les pères ont arraché la barbe et les yeux aux pères. Toutefois, ils furent infaillibles, car j'étais avec eux. L'ordre étant rétabli, le vieillard Hermas se leva et prononça ces lentes paroles. « Je vous louerai, Seigneur, de ce que vous fîtes naître Saphira, ma mère, parmi votre peuple, aux jours où la rosée du ciel rafraîchissait la terre en travail de son sauveur. Et je vous louerai, Seigneur, de m'avoir donné de voir de mes yeux mortels les apôtres de votre divin Fils. Et je parlerai dans cette illustre assemblée, parce que vous avez voulu que la vérité sortît de la bouche des humbles. Et je dirai, changez ces pingouins en hommes, c'est la seule détermination convenable à votre justice et à votre miséricorde. » Plusieurs docteurs demandaient la parole, d'autres la prenaient. Personne n'écoutait et tous les confesseurs agitaient tumultueusement leurs palmes et leurs couronnes. Le Seigneur, d'un geste de sa droite, apaisa les querelles de ses élus. « N'en délibérons plus, dit-il, la vie ouverte par le doux vieillard Hermas est le seul conforme à mes desseins éternels. Ces oiseaux seront changés en hommes. Je prévois à cela plusieurs inconvénients. » Beaucoup entre ces hommes se donneront des torts qu'ils n'auraient pas eus comme pingouins. Certes, leur sort, par l'effet de ce changement, sera bien moins enviable qu'il n'eût été sans ce baptême et cette incorporation à la famille d'Abraham, mais il convient que ma préscience n'entreprenne pas sur leur libre arbitre. Afin de ne point porter atteinte à la liberté humaine, j'ignore ce que je sais. J'épaissis sur mes yeux les voiles que j'ai percées, et dans mon aveugle clairvoyance, je me laisse surprendre par ce que j'ai prévu. Et aussitôt, appelant l'archange Raphaël, « Va trouver, lui dit-il, le saint homme Maël, avertis-le de sa méprise, et dis-lui que, armé de mon nom, il change ses pingouins. » En homme. Chapitre 8e. Métamorphose des pingouins. L'archange, descendu dans l'île des pingouins, trouva le saint homme endormi au creux d'un rocher parmi ses nouveaux disciples. Il lui posa la main sur l'épaule et, l'ayant éveillé, dit d'une voix douce « Maël, ne crains point !» Et le saint homme, ébloui par une vive lumière, enivré d'une odeur délicieuse, reconnut l'ange du Seigneur et se prosterna le front contre terre. Et l'ange dit encore « Maël, connais ton erreur. Croyant baptiser des enfants d'Adam, tu as baptisé des oiseaux. Et voici que par toi des pingouins sont entrés dans l'église de Dieu. » À ces mots, le vieillard demeura stupide. Et l'ange reprit, « Lève-toi, Maël, arme-toi du nom puissant du Seigneur et dis à ces oiseaux, soyez des hommes. » Et le saint homme Maël, ayant pleuré et prié, s'arma du nom puissant du Seigneur et dit aux oiseaux, « Soyez des hommes. » Aussitôt, les pingouins se transformèrent. Leur front s'élargit et leur tête s'arrondit en dôme, comme sainte Marie Rotonde dans la ville de Rome. Leurs yeux ovales s'ouvrirent, plus grands sur l'univers. Un nez charnu habilla les deux fentes de leurs narines. Leur bec se changea en bouche et de cette bouche sortit la parole. Leur cou s'accourcit et grossit. Leurs ailes devinrent des bras et leurs pattes des jambes. Une âme inquiète habita leur poitrine. Pourtant, il leur restait quelques traces de leur première nature. Ils étaient enclins à regarder de côté. Ils se balançaient sur leurs cuisses trop courtes. Leur corps restait couvert d'un fin duvet. Et Maël rendit grâces au Seigneur de ce qu'il avait incorporé ses pingouins à la famille d'Abraham. Mais il s'affligea à la pensée que bientôt il quitterait cette île pour n'y plus revenir et que, loin de lui peut-être, la foi des pingouins périrait, faute de soins, comme une plante trop jeune et trop tendre. et il conçut l'idée de transporter leur île sur les côtes d'Armorique. « J'ignore les desseins de la sagesse éternelle, se dit-il, mais si Dieu veut que l'île soit transportée, qui pourrait empêcher qu'elle le fût ?